À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, oui.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, 92.2.
Chers amis auditrices, auditeurs de Radio Cité, bonjour. Là, ce matin, je suis à un endroit où... Ouais, c'est une association qui est née à Genève il y a très longtemps. Et puis, bien évidemment, comme beaucoup d'associations, on va aller voir quand il y a quelque chose qui va pas. Ou voir quand quelque chose qui va vraiment pas, qu'on soit ici, à l'autre bout de la planète, on se dit, oula, j'aimerais bien qu'ils arrivent, ceux-là. Alors, je suis avec Yves Gerbert. Yves, dis-moi, c'est quoi cette association, puis t'es qui, toi?
Ouais, c'est le TCS, hein, le Touring Club Suisse. Je suis le directeur de la section genevoise, parce qu'en fait, le TCS est né à Genève en 1896, créé par des cyclistes qui avaient besoin de défendre leurs intérêts au niveau de la sécurité routière, mais aussi quand ils se faisaient tout le temps embêter par les douaniers quand ils passaient avec leur joli vélo. Donc ils ont inventé notamment, ils ont mis faciliter les démarches administratives. Donc c'est un peu né comme ça, le TCS. Le but, c'était de venir en assistance à tous ses membres. Et puis c'est devenu un énorme club de mobilité qui a été très longtemps un défenseur des infrastructures, de les développer, les améliorer, surtout pour la voiture. Ça a été le tout bagnole pendant 50 ans en Suisse. Et puis depuis les années 2000, on a une vision plus multimodale.
C'est vrai que le vélo au touring est redevenu un peu d'actualité, je crois.
Oui, voilà, disons qu'il a un peu remis de nouveau devant, il a jamais complètement disparu de nos activités. Pour revenir à la manière dont fonctionne le TCS, c'est que c'est le club central. Il est à Genève, à Vernier pour être précis, donc c'est lui qui organise tout ce que les gens connaissent au niveau de l'assistance. On a un pépin, on doit téléphoner, il y a la patrouille qui doit venir, nous gérons tout côté protection juridique, assistance, enfin toutes les prestations du TCS, ça c'est le club central au niveau suisse qui gère ça depuis Genève. Vernier, donc c'est la seule association suisse qui est basée à Genève. Et puis après, elle a une structure fédéraliste parce qu'elle a des sections dans toute la Suisse. La première, ça a été le Tessin, justement, pour que les membres qui passaient par là, qui allaient en Italie, ils trouvaient deux ou trois informations. Puis après, il y a eu Zurich, Valais, enfin... Puis Genève a été créée en 1917. Alors c'est drôle parce qu'on est à la section genevoise, à côté du club central. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est développer des activités pour nos membres, c'est dans nos statuts. L'argent de nos membres, il est pour nos membres. Donc, c'est une association à but non lucratif. On doit tout réinvestir pour nos membres. Et là, depuis le début, on a été très actifs dans le vélo, dans les sorties, les activités de sécurité routière, l'éducation routière. Par exemple, samedi dernier, on était à Verrier avec une association de parents d'élèves. On avait 115 enfants avec lesquels on a fait tout un travail sur... comment aller de manière plus sûre à l'école.
Ah, ton prédécesseur, que j'ai bien connu, Henri Pierre, que je salue au passage, lui, il était venu nous soutenir sur un événement à Genève où il avait pris, je ne sais plus, 500 ou 800 même carrés, je crois, de sol en bois, fait venir des enfants avec tout un circuit, justement, pour apprendre aux gamins en vélo comment se comporter sur la route. Je trouvais super, ça.
Effectivement, c'est ce qu'on appelle le gymkhana. Quand on fait ces ateliers, il y a une dizaine de postes. Il y a les parties théoriques sur les dangers, enfin la circulation routière, où est-ce que j'ai le droit de rouler ou pas avec un vélo, comment je me comporte, les dangers. Il y a un moment donné, on montre une voiture qui percute un ballon à 30 km/h et les gamins, ils voient l'énorme ballon style Pilate giclé à 60 mètres, puis ils se disent oulala, ouais, effectivement, il vaut mieux que je regarde avant de traverser la route. Mais en fait, tout ce travail d'éducation routière, effectivement, on le fait par le biais d'activités qui sont à la fois ludiques, où on apprend à manier son vélo, pour qu'on fait rentrer la théorie beaucoup mieux quand on pratique. Ça, c'est un peu le credo du TCS pour tout ce qui est formation et cours. On mêle toujours la pratique et la théorie, et on le fait depuis même les écoles assez tôt. On apprend aux enfants, même à la crèche ou en école élémentaire dès les premières années, à traverser un passage piéton, par exemple. Ça, c'est de l'accompagnement... très sécurité routière qu'on organise.
Le vélo, eh bien, tu sais, j'adore aller en vélo. Non, tu ne sais pas, je te le dis. J'ose plus rentrer à Genève en vélo. Je me suis fait doubler avec une peur magnifique par une trottinette à la rue de Lausanne il y a quelque temps. Je ne descends plus en vélo à Genève. Je crois que les trottinettes, elles feraient bien de prendre des cours aussi, non?
Ah, ça, c'est la grande question. C'est qu'en fait, cet engin, il est arrivé sur le marché avec peu d'accompagnement, avec une manière de les vendre, un peu hard selling, en disant « Ah, c'est génial, tu peux aller partout avec ». Je pense que les vendeurs ont leur responsabilité. On avait organisé à l'époque, déjà avec à bon entendeur, On a fait une émission spéciale sur la place de la trottinette et puis sur tous les autres engins qui étaient vendus alors qu'on n'avait même pas le droit de rouler avec sur le domaine public, comme certains types d'engins, comme les hoverboards, on appelait ça. Ça ressemble à des espèces de planches à roulettes où on est de face. Les enfants, en fait, l'achetaient et puis ils allaient directement sur une bande cyclable sur le trottoir avec, alors qu'ils n'avaient absolument pas le droit. Vous voyez, je pense que je comprends cette inquiétude parce qu'on se retrouve maintenant avec la mobilité électrique. Un moteur électrique, c'est très simple, on peut le mettre dans une roue. Donc en fait, on a commencé à inventer d'autres manières de se déplacer qu'on ne connaissait pas il y a encore 15 ans, 20 ans, ou qu'on revisite. Une trottinette normale, elle a le droit d'aller sur un trottoir, c'est même obligatoire. Par contre, une électrique, non, elle doit se comporter comme un vélo. Elle doit aller sur une bande cyclable ou une piste cyclable quand elle est là, ou rester sur la route quand il n'y a pas de bande cyclable. Et bon, beaucoup de consommateurs, ils ne se renseignent même pas. Le pire, c'est les parents qui achètent des fois ce type d'engin à des enfants qui n'ont pas l'âge.
En plus.
Parce qu'il y a une limite d'âge. C'est 14 ans avec un permis théorique, ou 16 ans, comme pour les vélos électriques rapides. Ou un vélo, même un vélo électrique, des fois on voit des enfants qui sont dessus et en fait ils n'ont même pas le droit d'y être. Il y a tout un travail d'éducation qui doit être fait et je pense qu'il en va beaucoup de la responsabilité du vendeur. On fait beaucoup de travail, on a approché nos partenaires de magasins de vélos. On a fait un petit guide du rouleur transfrontalier, par exemple, qui montre toutes les différences de lois sur la circulation routière, de réglementation, d'équipement entre la France et la Suisse. Et du coup, on découvre déjà même en Suisse qu'il y a des tas de choses qu'on ignore. Par exemple, le port du casque, il est recommandé pour un vélo électrique lent, mais il est obligatoire pour un rapide. Mais en France, par exemple, le vélo électrique rapide, il doit avoir un casque spécial ou alors un casque qu'on appelle intégral. Les trottinettes électriques, elles ont le droit de rouler à 25 km/h en France, mais à 20 km/h en Suisse.
Moi, celui qui m'a doublé sur la rue de Lausanne, il devait être à 40 ou plus même.
Ah, ça, j'imagine. Alors, en plus, ça, c'est illégal. Donc, mais c'est vrai qu'il y a, on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais je pense que la loi, elle est aussi, elle évolue tellement souvent.
Puis il faut la communiquer aussi.
Et voilà. Et souvent, l'Office fédéral des routes, il publie quelque chose au mois de janvier en disant, voilà, il y a telle réglementation qui est entrée en vigueur, mais il compte sur les médias pour la relayer.
Donc il compte aussi sur ton avis que tu distribues toi?
Oui, exactement. Ou nous, c'est à nous de relayer aussi ce genre d'informations auprès de nos membres. On le fait à travers nos journaux, que tout le monde reçoit dans sa boîte aux lettres. Enfin, on a des canaux de communication qui nous permettent quand même de diffuser beaucoup ce type de message.
Communication, et tu viens sur l'électrique. Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, déjà, d'avoir une bagnole de 2 tonnes pour transporter quelqu'un qui fait 70 kilos?
C'est une vaste question.
Comment tu communiques là-dessus?
Alors avant même qu'elle soit électrique, il faut déjà se poser la question de pourquoi on est tout seul dans sa voiture pour faire un trajet. C'est là où les choses ont bien évolué, on le voit à travers la connaissance qu'on a maintenant des habitudes de nos membres. On a fait un sondage en 2021, on vient d'en refaire un en 2024, on leur a demandé de quelle manière ils se déplacent. Nos membres, Genevois du TCS, ils étaient 9 sur 10 à déclarer utiliser régulièrement une voiture. Maintenant, ils sont 86%, donc il y a déjà une petite baisse. Mais quand on leur dit, pour aller au travail, vous êtes combien à l'utiliser? Et là, ils étaient 30% à l'époque, ils sont plus que 25% maintenant. Mmh. Et là, on voit clairement qu'il y a un changement qui s'opère dans les mentalités. Un Genevois, il prend pratiquement plus sa voiture pour les trajets quotidiens. Il a compris que c'était pas efficient. Il prend les transports collectifs, on a 70% de nos membres. Le vélo, 70% qui utilisent le vélo très souvent. La marche à pied, ouais. Ça c'est number one. Et en fait, la voiture, on se rend compte, elle est là surtout pour les loisirs et les achats. Donc quand on parle dans 2 tonnes, oui, effectivement, les voitures sont de plus en plus lourdes, mais déjà pour les raisons de sécurité, avant même qu'on commence à mettre des batteries dedans, elles commencent à être de plus en plus lourdes. Entre la première Golf, puis la Golf d'aujourd'hui, même moteur thermique, il y a plus de 500 kilos d'écart, je crois, à peu près. Ça, c'est un phénomène grossissant, mais qui est dû aussi à toutes les normes de sécurité qu'on s'est imposées, les technologies embarquées. Et puis maintenant, quand on y rajoute encore les batteries, eh ben, du coup, il faut vraiment se poser la question, ça sert à quoi que je roule tout seul dans ma voiture? Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour tel ou tel trajet? Est-ce que je peux pas fonctionner autrement?
Alors, aller plusieurs dans une voiture, moi, j'ai essayé de le faire quand j'habite à Versoix, donc. Et puis, j'en ai parlé à la ville de Genève, mais il y a de nombreuses années. Et puis, on dit, non, ça, il faut pas trop en parler, parce que ça fait de la concurrence au TPG.
Non, alors faut pas voir ça comme ça.
C'était M. Ferrazino, pour pas citer.
Bah, en fait, je peux comprendre. Il y a eu un courant dès les années 80. On s'est rendu compte qu'on avait conçu tout le circuit urbain au niveau routier pour la voiture. Parce qu'on avait dit, c'est ça l'avenir. Il faut que la voiture puisse aller partout, porte à porte. Et c'est vrai qu'au niveau urbanistique, on a favorisé, en fait, avec l'essor, la démocratisation de l'accès à la voiture, où les classes populaires ont pu commencer à s'en acheter et puis à se déplacer tout le temps avec. Mais dès les années 70-80, il y a quand même eu à Genève une réflexion de se dire non, il faut encourager le transport collectif parce qu'il n'y a rien de plus performant pour amener beaucoup de gens dans peu de mètres carrés d'un point A à un point B. Il n'y a rien de mieux qu'un train, un tram ou un bus. Ça, on est entièrement d'accord. Et cette politique, M. Ferrazino, c'était plutôt années 2000. Et on était dans le militantisme encore assez fort, même si déjà sous Robert Kramer et déjà ses prédécesseurs, on avait commencé à fortement développer les transports collectifs. Et puis on a longtemps eu ce discours qu'il fallait forcément abandonner l'un pour se passer à l'autre. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend plutôt compte que c'est la même personne qui utilisera les différents modes de transport en fonction du moment dans la journée, de l'intérêt, du motif et de la destination. Aujourd'hui, on peut prendre deux ou trois modes ou quatre modes de transport dans la même journée. Et donc, on ne peut pas dire qu'on travaille l'un contre l'autre. Il faut qu'il y ait une place et une priorisation qui est faite suivant les lieux. Mais voilà, c'est un peu la position du TCS. On dira plus que c'est de la complémentarité entre les modes de transport, que aller acheter ses cigarettes en voiture pour faire 500 mètres. Je pense que c'est plus de notre temps. Ça n'existe presque plus. Il y a encore quelques indécrottables, hein. Mm-hmm. Mais on est plutôt dans une vision maintenant globale et multimodale.
Ton prédécesseur me disait, ouais, c'est facile de parler de mobilité douce à Genève, mais va dire ça aux Valaisans qui, eux, doivent aller travailler dans la vallée chaque jour. C'est un autre problème. Donc, si on regarde le rôle du TCS au niveau national, on doit un peu pondérer nos ardeurs vis-à-vis de ce que l'on connaît et qu'on côtoie à Genève, et c'est pas de la tarte quand on a une bagnole à Genève, d'ailleurs je la prends plus, parce que je fais pas partie des gens qui profitent d'être dans la bagnole pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pour être en dehors de leur travail encore un moment, et puis d'être un petit peu tout seul avant de rentrer à la famille le soir, parce que je crois qu'il y a aussi un aspect psychologique là-dedans quelque part, qui à mon sens on ferait bien d'étudier. Pourquoi finalement ils ont besoin des fois d'être seuls?
Bon, alors ça, c'est des vastes enquêtes. Faut voir avec des sociologues et puis avec des spécialistes du comportement. Ce qu'on entend des fois sur les transports publics, la notion de confort et d'hygiène, elle ressort des fois dans les arguments. Pas mal de gens ne veulent pas aller dans les transports publics parce qu'ils ont peur de choper des virus. Ils trouvent que ça sent mauvais, qu'on est dans la promiscuité, on est les uns sur les autres. Et il faut quand même respecter cette idée que beaucoup de gens aiment pas qu'on soit dans leur bulle. On voit qu'ils vont peu à Tokyo ou à Paris. Mmh. Des fois, il y a des gens qui sont payés pour pousser la foule à l'intérieur du métro.
C'est juste.
On a un autre rapport, disons, à la foule et à la promiscuité dans ces, dans les endroits. Ça, c'est un moteur. De la même manière que j'ai lu un livre sur aller au travail à vélo, c'est quand même indiqué qu'il y a 30% des gens, c'est clairement ils n'y iront jamais sur un vélo. On les mettra pas sur un vélo pour X raisons. Certains se sentent pas sûrs dessus. Ils ont des problèmes d'équilibre. Enfin, voilà, le vélo, c'est pas leur truc. Puis heureusement, il y a encore deux tiers où il y a un champ d'action possible pour éventuellement leur dire, ta voiture, t'en as pas forcément besoin. Mais je pense que le motif premier, pourquoi on prend sa voiture, c'est que l'être humain, il est opportuniste. C'est-à-dire qu'il va toujours chercher la loi du moindre effort. C'est comme un piéton, même si on lui dessine un cheminement et puis que ça lui convient pas, il va couper dans l'herbe.
Ouais.
Et là, c'est la même chose. Le cycliste qui refuse d'attendre un feu rouge parce qu'il a pas envie d'attendre, en fait, il est aussi dans sa logique d'opportuniste. Mmh. J'ai choisi un mode de transport flexible, rapide, c'est pas pour m'emmerder dans les carrefours. Et puis, dans la voiture, c'est un peu, dans sa journée, on va avoir plusieurs motifs de déplacement dans une seule journée. Et ce qu'on a un peu analysé, on le voit à travers le dernier micro-recensement de la mobilité au niveau de la population suisse, c'est qu'il suffit qu'il y ait un moment donné dans la journée, un des trajets où c'est nettement plus performant de le faire en voiture, du coup c'est la voiture qu'on va prendre depuis le matin jusqu'au soir.
Mmh.
Parce que à un moment donné, le transport public va pas répondre correctement aux besoins parce qu'on a peu de temps et on ferait trop de détours et trop long. On n'a autrement pas de possibilité sur place, éventuellement, si on est venu sans voiture, de prendre la mobilité de partage. Et là, c'est ce qu'on pousse beaucoup maintenant dans les réflexions avec le TCS, c'est de dire, arrêtons de penser toujours propriété pour être libre de ses mouvements. En fait, la seule chose qui nous fait nous déplacer aujourd'hui facilement, c'est notre smartphone. C'est-à-dire qu'on a accès à énormément de prestataires et on ne s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus de prestataires privés qui proposent des systèmes de mobilité de partage. Ça peut être un vélo, comme Donkey Republic propose le vélo partage à Genève. Ça peut être un vélo cargo, ça peut être une voiture, ça peut être une camionnette, ça peut être un utilitaire, ça peut être un taxi aussi qu'on appelle. Et en fait, on n'a pas forcément ce réflexe de se dire, ben, je suis à pied, mais finalement, non, en 10 minutes, je peux me débrouiller pour être autrement qu'à pied.
J'aimerais revenir sur, faire une petite boucle sur ce qu'on parlait à propos du TCS au départ. C'est donc une association, c'est un réseau national. Et puis, moi, j'ai vécu quelque chose qui m'a stupéfait, vraiment. On a une maison familiale en Espagne, à la montagne, et j'avais une voiture d'une marque suédoise, automatique, c'est-à-dire qui ne bouge plus quand elle veut plus bouger, quoi. Tu peux plus la pousser, tu peux rien faire. Et c'est tout au bout d'un village, dans une petite rue un petit peu difficile d'accès. Et puis, je téléphone donc au touring, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Et on me répond un petit moment plus tard, on a un souci, on trouve pas de garagiste dans le coin qui est d'accord de monter chercher votre voiture. Pousse le bouchon un peu plus loin pour voir jusqu'où on peut aller. Dit, ouais, mais attendez, moi, je suis au touring, etc. Et très vite, j'ai eu une réponse différente. On m'a dit, attendez, on va téléphoner au responsable de cette entreprise de fabrique de voitures, etc., dans son siège à Madrid. Et puis, on vous mettra en ligne pour voir si on arrive à trouver une solution à trois. Effectivement, un quart d'heure plus tard, le touring rappelle et on me met en ligne avec la compagnie suédoise à Madrid, au siège, et j'entends, au bout d'un petit moment, déjà quelqu'un du touring qui parlait bien espagnol, parce qu'il fallait négocier en espagnol, et le fabricant de cette marque suédoise dit « Écoutez, monsieur le garagiste, vous avez de la peinture blanche chez vous ? Parce que si vous n'allez pas chercher cette voiture dans les 2 heures, vous prenez votre pinceau et votre rouleau de peinture blanche et vous retirez la marque de notre compagnie sur votre garage. » Voilà. Alors ça, chapeau, parce que ça démontre que le réseau qui existe au niveau international, il fonctionne vraiment bien, et que même dans des cas que j'admets être un peu critiques, il y a eu la solution qu'il fallait. Donc là, oui, je dis merci. Yves Gerber, quand quelqu'un te dit « Merci la vie », puisque c'est le titre de mon émission, comment tu réagis ? Comment ça résonne en toi, « Merci la vie » ?
Ah ben, ça résonne de la manière assez simple, c'est que déjà on dit pas souvent merci, on a plutôt tendance à s'exprimer quand on n'est pas content, et on a je le vois à travers j'ai plus souvent des personnes qui envoient une réclamation et là ils ont toujours des doléances puis ils font une liste entière, mais ce qui me fait énormément plaisir, c'est que on reçoit souvent des remerciements. Et je pense que c'est assez rare, parce que quand j'en parle autour de moi, ils m'ont dit t'as de la chance de travailler pour une institution où les gens disent merci. Et c'est assez précieux, parce qu'on est, surtout à Genève, des gros râleurs.
Oui, bienvenue au club.
Ah ouais, le Genevois, on le connaît. Moi, je dis toujours, il est bourru, mais volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, il râle, mais il fait quand même. C'est très Genevois, ça. Mais donc, du coup, le merci la vie, bah, c'est une manière de dire déjà merci. Et puis, la vie, c'est d'avoir, de prendre conscience que finalement, il y a, chaque jour a son lot quotidien de bonnes surprises, de petits bonheurs, de petites choses qui peuvent se produire et qu'il faut savoir des fois apprécier. Ça juste, même lui donner plus de valeur que ce qu'on voudrait lui donner, en fait, parce qu'on pense que ça fait partie du quotidien et vu que ça n'a pas de, c'est insignifiant.
Alors, on va préciser un petit peu. Est-ce que dans ces dernières, les 48 heures, il y a quelque chose où tu t'es dit, ah ben, heureusement que j'étais suffisamment à jour, vivre l'instant pour remarquer que là, il y avait quelque chose de magnifique. Si j'avais pas fait gaffe, je serais passé à côté d'un merci de la vie.
Alors, moi, je suis assez particulier parce que, je suis un contemplatif et en fait, moi, je m'extasie dès que je vois un rouge queue qui se pose devant ma fenêtre. Non. Et chaque fois, j'appelle toute la famille en disant « Ah, il y a un rouge-queue !» Et puis, je passe un peu pour le poète, enfin, je sais pas, l'allumé de service. Mais j'ai mis sur mon comme credo sur Facebook, parce qu'on aimait bien mettre des petits slogans sur leur nom, une citation de Saint-Augustin qui dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Puis c'est un petit peu ma philosophie. tous les jours, si tu sais ouvrir les yeux, il y a plein de petits bonheurs qui peuvent... ça peut être juste la trajectoire d'une hirondelle, comme ça peut être une goutte de pluie qui tombe sur le visage, des choses comme ça. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, ce week-end, j'ai déjà pas mal d'images qui viennent. C'est l'écureuil que j'ai vu il n'y a pas plus tard qu'hier traverser la route pas très loin devant la voiture. C'est d'apprécier un bon petit vin qu'on a choisi, on connaît le viticulteur, et puis du coup, au moment où on ouvre la bouteille, on pense à ce moment qu'on a passé là-bas, et puis au terroir, et puis ça nous replonge dans les vacances d'il y a quelques week-ends. Ouais, c'est des petites choses comme... Ah ouais, j'ai de faire un agneau, une épaule d'agneau confite, où on prend le temps parce que c'est dimanche. Et que le temps, c'est précieux. Et souvent, dans la cuisine... c'est le temps qui nous manque le plus, et puis c'est quelque chose qu'on peut donner à ce moment-là, et c'est toujours un énorme plaisir aussi de partager quelque chose où on a pris du temps pour le faire.
Partager, c'est ce qu'on vient de faire, chers auditrices et auditeurs, avec Yves Gerber. Je te remercie de nous consacrer du temps, parce que tu le partages à beaucoup d'activités, à part Radio-Cité. Donc je te remercie du fond du cœur, et puis encore merci au nom de tous ceux qui, comme moi, apprécient ce service, parce que c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on a besoin quand on est vraiment dans la... Et je reste poli avec notre véhicule.
Merci pour l'invitation.
À tout bientôt. Au revoir, Yves. Au revoir, chers amis.